commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passées, présentes et parfois même futures. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour. Un livre, oui, mais quel livre? Eh bien, l'Oiseau des Livres est là pour vous présenter des livres, des coups de cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre dont j'ai déjà dû vous parler d'ailleurs, mais c'est spécial. Donc, Le Voyage de Fatim Zahra, qui est un roman de Kochka, qui nous raconte l'histoire vraie de Fatim Zahra, une petite Marocaine qui va rester en France pour poursuivre ses études. Elle est toujours en France, elle prépare son bac. Et Kochka l'a rencontré. Kochka faisait des rencontres dans tout le département pour le prix des dévoreurs de livres, puisque Le Voyage de Fatim Zahra était sélectionné pour les enfants lecteurs collégiens de 6e. Et puis, elle a fait une halte à la librairie et Martin Moore est venu papoter avec elle. En les entendant, j'ai eu envie de leur poser une question. Qu'est-ce que la création? Et vous allez pouvoir écouter l'enregistrement que j'ai fait ce jour-là.
Bonjour, donc je suis avec Kochka, qui était en rencontre toute la semaine et qui est encore en rencontre pour les dévoreurs de livres, et Martin Bourg, qui est venu la voir à la librairie. J'ai essayé, en les écoutant, de trouver des questions à leur poser. Et je les ai entendues parler de création. Et j'aimerais bien savoir ce que représente la création pour elles deux.
La création, pourquoi je crée? En fait, je crée, moi, enfin, si on peut appeler ça de la création, parce que j'ai toujours eu le sentiment, aussi loin que je me souvienne, que j'étais dans le vide. Et si je crée, c'est pour me raccrocher à un fil ou pour mettre un espèce de trampoline sous mes pieds. Et quand je ne suis pas dans un texte et que je ne me tiens à rien, je ne me sens pas très très bien. Voilà, ça m'empêche de tomber en fait. Ou ça m'aide à voler. Voilà. Les jours où je suis fragile, c'est pour ne pas tomber. Les jours où je suis forte, c'est pour mieux voler.
Voilà. Ah, c'est joli. Ah oui, alors oui, c'est bien d'entendre ce que tu dis parce que moi, je le ressens pas tout à fait comme ça. Moi, je pense que c'est comme l'air que je respire. Je ne peux pas être autrement que dans une certaine création, que ce soit au niveau des livres, des albums que je fais depuis longtemps, mais aussi dans ma façon d'accommoder ma vie. Et ça va parfois assez loin, parce que j'ai parfois l'impression de créer des relations qui n'existent pas toujours, ou de vouloir... que les gens autour de moi soient un petit peu comme si c'était mes créations. Ça peut être aussi très ambigu, ça, comme façon d'être. Mais en tout cas, créer, c'est-à-dire se mettre au niveau d'un... Comment expliquer ça? C'est vraiment par rapport au monde qui m'entoure, agir sur ce monde, en tout cas. Ça, c'est certain. Vraiment agir, le besoin d'agir... pour que ce monde existe, non pas à ma façon, mais en tout cas que je puisse y avoir ma place.
Ah oui, d'accord. Voilà, je réagis par rapport à ce que tu dis. Moi, c'est pas ça. En fait, ce n'est pas ça. Je me sens très, très impuissante, en fait, face au monde. Il me semble... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me semble être née dans... c'est comme si j'étais arrivée sur la Terre dans un espèce d'immense silence. Et j'ai passé une enfance pendant laquelle, en fait, on m'a très peu parlé. Or, je pense qu'on n'existe pas tant qu'on n'est pas en relation avec l'autre. Et si j'écris, puisque bon, moi, ma création se résume à de l'écriture, je ne sais pas façonner, moi j'écris. Si j'écris, en fait, je pense que c'est pour me parler. Et je n'existe que si je me parle. En fait, j'écris pour me rencontrer, parce que tant que je n'ai pas écrit dans ma vie, j'avais l'impression d'être totalement inexistante. Et c'est l'écriture qui m'a mise au monde. Et quand je n'écris plus et que je ne parle plus, enfin que je ne me parle plus, avec les jours qui passent, je disparais doucement. Et en fait, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour exister. Voilà. Sinon, il me semble que je suis transparente. Maintenant, Peut-être qu'un jour, je n'aurai plus besoin d'exister parce que la vérité est peut-être dans la transparence. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en fait, j'ai... Ce n'est que dans l'écriture que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un et que j'avais des... Que je n'étais pas que du vent. Mais peut-être qu'un jour, je serai suffisamment en paix avec moi-même pour accepter de devenir du vent, parce que le vent, c'est beau. L'air, c'est beau, comme tu dis, tu vois. Mais je crois que pour accepter de disparaître, il faut d'abord avoir été. Et je ne suis pour l'instant qu'en écrivant.
Ah oui, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et en effet, je sens que tu es tout à fait dans l'air et dans le vent et dans la fluidité, la légèreté. Une certaine légèreté, hein, qui peut être aussi très, très agréable. Et moi, je suis tout à fait dans la densité, dans la terre. Oui. Beaucoup plus, je pense, hein, en tout cas aussi par les illustrations que je fais, par les histoires que je choisis d'illustrer, par les sentiments, les émotions que je fais passer au niveau des enfants et des tout-petits en particulier. Je pense que c'est très lié à un certain archaïsme, à un monde extrêmement physique, en fait, qui anime, qui fait vivre les tout-petits, les nourrissons, les bébés. Et je suis vraiment proche de ça, de l'essentiel, mais au niveau des besoins du corps. Alors, bon, ça va plus loin, puisqu'il y a des textes et des images, donc on est déjà dans une forme d'interprétation, mais tout de même, j'essaye de faire aimer, connaître et découvrir le vivant. C'est vraiment le vivant en tant que matière, cellule presque, tu vois, les êtres vivants, pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose. Et ça va de la cellule d'un végétal, enfin quelque chose de minuscule, une algue, jusqu'à ce qu'étaient les dinosaures et jusqu'à ce que nous sommes nous, et bien sûr tous les animaux qui me font vivre, puisque mon fonds de commerce, c'est quand même depuis longtemps de les dessiner.
Tu les dessines, mais tu les façonnes aussi, parce que j'ai vu certaines sculptures qui sont assez fascinantes.
Oui, ben oui, alors c'est la suite du dessin, c'est simplement pouvoir appréhender sous toutes ses formes un animal, ne pas en voir qu'un morceau, qu'un profil, oui. Comme on le voit sur une page, mais pouvoir tourner autour. Et puis le mouvement. Je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise au niveau de mes dessins, c'est le mouvement. C'est-à-dire donner vie à des images, ce qui est tout à fait paradoxal, mais ce qui peut se faire. Et les grands sculpteurs ont donné vie à leur sculpture. Je pense à des grands sculpteurs animaliers en particulier qui ont mis une vie dans leur bestiole en bronze, en terre, en marbre. Et ça me fascine complètement. Et c'est assez peu connu. On parle beaucoup des sculpteurs comme Rodin qui ont fait des choses magnifiques, mais il y en a d'autres qui sont carrément oubliés et qui ont donné, je trouve, des émotions extraordinaires en voyant un éléphant galoper, en voyant un tigre à l'affût, un félin. Je pense à Monsieur Barry en particulier. Et ça, depuis toute petite, j'ai ces images-là en moi parce que mon père était ciseleur sur bronze, mon grand-père était ciseleur sur bronze à Paris. Et j'ai eu, je pense, en face de mon berceau, quand j'étais bébé, j'avais cet éléphant en train de courir. Et ce mouvement, cet éléphant était en mouvement, il n'était pas figé. Et c'est ce que j'essaie toujours de mettre dans mes images et dans les sculptures que je peux faire.
Tu avais quelque chose devant les yeux, moi j'avais le silence.
Et oui.
Tu vois, c'est la différence. Je ne dis pas ça du tout pour... Mais je pense effectivement que la naissance et ce qu'on vit dans la petite enfance détermine énormément de choses sur la suite et détermine la quête. Et moi, ayant souffert du silence, il fallait mettre du son pour ensuite accepter le silence, parce que je pense néanmoins que le silence est au-delà du son, que le silence, en fait, est l'ensemble de tous les sons, de la même manière que la lumière blanche est l'ensemble de toutes les couleurs. Donc, je vais vers le silence, mais pour l'instant, j'ai besoin des mots. Voilà.
Et quand tu dis silence, c'est vraiment le vide total. Donc, tu ne penses même pas à un souffle.
Alors, non, quand je dis que j'irai sans doute vers le silence, c'est sans doute le silence que murmurent les étoiles.
Ah oui.
Voilà.
Pas dans le vide, là. Ah non, mais non, le silence dont tu parles, qui était dans ton enfance.
Alors, le silence de mon enfance était très silencieux et je pense qu'il explique que j'ai un enfant autiste. J'ai un enfant du silence, mais au fur et à mesure, avec le temps qui a passé, j'ai réussi à plus ou moins à apprivoiser Mathieu parce qu'il fallait que je le sorte de ce silence et ça m'a sorti du mien. Et plus je sortais du silence, plus Mathieu sortait du silence et je ne sais pas comment dire. Je pense que c'était mon chemin. Tu vois, je ne jette la pierre sur personne. Je pense qu'il fallait que quelqu'un vive de la même façon. Nous ne sommes pas là pour rien. Et je pense qu'on est dans une configuration pour apporter quelque chose au monde. Et mon chemin passait par ça. Mon chemin passait par ce silence étouffant pour aller vers le silence lumineux et chantant. Voilà. Et Mathieu, sur mon chemin, est un ange. Parce que je crois que je n'aurais pas été capable de sortir du silence pour moi. Par contre, sortir du silence pour sortir mon fils du silence, ça c'était beau. Voilà.
Ouais, ça je comprends tout à fait quand tu dis on n'est pas là pour rien. Je pense que personne n'est là pour rien. Et quand on arrive à savoir à peu près, à connaître un peu le chemin qu'on prend, à le reconnaître et à jubiler en fait, à le vivre avec beaucoup de plaisir. Et oui, moi ça m'importe beaucoup cette idée. Je pense que de temps en temps, être, tu vois, le grain de sable qui empêche la machine de bien tourner, ou être juste la petite couleur qu'on a mise en avant et qu'on n'aurait pas vue, on aurait passé sur cette page, on aurait oublié cette image-là s'il n'y avait pas eu cette étincelle ou cette lumière. Et cette lumière, elle dit, regardez ça, c'est du vivant. Regardez le vivant, vivez. Et je pense que ça, on est... Enfin, moi, c'est mon chemin. C'est le chemin que j'ai découvert petit à petit et que je mets dans mes images.
Oui. Mais sans doute qu'on se rejoint.
Ah oui, tout à fait.
Même nous, on l'explique différemment.
On vient pas du tout des mêmes. On n'a pas les mêmes origines, mais on
va
je
vers
pense
la
que
chose.
Le chemin est assez proche.
Oui, oui, nous allons vers la même chose. Et je crois que nous allons tous vers la même chose.
En fait. Oui.
Voilà. Merci, Anne.
Merci.
Eh bien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. J'ai vraiment été très heureuse d'accueillir Koshka et Martine Bourg. Je pense que ils étaient passionnantes toutes les deux et que cette création à ces deux auteurs illustrateurs était fascinante. Merci d'avoir écouté. À une prochaine fois. Et n'oubliez pas, les livres s'achètent en librairie et s'empruntent en bibliothèque.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.